Bonjour Jean-Christophe Fromentin.
Bonjour.
Est-ce que la France a selon vous des leçons à tirer de ce qui vient de se passer au Canada? Deux attaques à caractère semble-t-il terroriste en quelques jours.
Je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement observateur de tout ce qui se passe et extrêmement prudent, parce qu'on assiste aujourd'hui à un véritable retournement d'une politique ou d'un système qui est celle qu'a lancé l'État islamique, qui prospère dans le monde entier et qui peut aller dans le tréfonds de nos territoires. C'est une nouvelle forme de conflit mondial sur lequel aujourd'hui les réponses sont extrêmement compliquées et on doit trouver des réponses en matière d'ailleurs de politique étrangère comme en matière de défense à cette nouvelle forme de terrorisme extrêmement insidieux et qui s'enfonce dans la profondeur de nos territoires et de nos institutions.
Oui, vous êtes le vice-président du groupe d'études sur les chrétiens d'Orient à l'Assemblée nationale. Un ouvrage est publié cette semaine intitulé « Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde ». 150 à 200 millions de chrétiens sont persécutés selon ce livre à travers le monde. 75% des violences commises à travers le monde visant des minorités religieuses visent des chrétiens. Qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que la France peuvent faire contre ce phénomène ?
D'abord, je crois que ce sont des signes avant-coureurs d'une forme d'intolérance qui est tout à fait préoccupante et alarmante. Vous voyez, quand on ne se tolère pas, quand on se respecte pas, quand on n'ose plus regarder ou accepter la religion de l'autre, quelle qu'elle soit, c'est vraiment un signe tout à fait inquiétant d'une incapacité finalement de la société à vivre ensemble. Et donc moi j'observe avec beaucoup d'inquiétude ces mouvements qui montent à l'égard des religions, ces tensions qui traversent aujourd'hui la société, et à un moment où le monde se globalise, à un moment où au contraire, vous voyez, cette porosité entre les civilisations doit devenir de plus en plus forte pour le bien de chacun, pour la prospérité également de toutes les civilisations, on a cette espèce de radicalisme qui prospère à travers le monde. Donc on doit être extrêmement vigilant à ne pas accepter à réagir très fort devant ces phénomènes, parce que si on laisse aller, si on est tiède en termes de réaction, c'est l'ensemble du vivre ensemble global qui se délitera.
Mais concrètement, est-ce que la France, par exemple, devrait accueillir plus de chrétiens d'Orient ?
Non, parce que ça serait un aveu d'échec, vous voyez. Ça serait de dire à l'armée et à l'État islamique, on vous laisse occuper le terrain. Au contraire, on doit faire l'inverse. On doit occuper le terrain avec eux, on doit les aider sur place, on doit les stimuler, les accompagner dans cette volonté qu'ils ont de rester là où ils sont depuis des millénaires. Vous voyez, en Irak, les chrétiens d'Irak sont là depuis très 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 longtemps. Ils font partie de l'ADN de ce territoire. Donc je crois que il faut pas être dans une fuite en avant, il faut au contraire les aider à occuper des positions qui sont historiques, qui sont l'histoire des civilisations.
Au moment où le Parti Socialiste se déchire entre frondeurs et orthodoxes, on pourrait dire, Manuel Valls, le Premier ministre, s'en prend dans une interview au Nouvel Obs à la gauche passéiste. Il évoque la possibilité d'un changement de nom du Parti Socialiste, trouve intéressante l'idée d'instaurer un contrat de travail unique pour assouplir le marché du travail, souhaite bâtir une maison commune de tous les progressistes et regrette d'ailleurs dans cet esprit que la main n'ait pas été tendue à François Bayrou en 2012. Est-ce que le centre est prêt à suivre Manuel Valls dans cette direction ?
Vous savez, je crois que c'est pas le sujet du centre et de Manuel Valls. C'est le sujet d'un nouveau projet politique pour la France. Probablement, effectivement, aujourd'hui, on est à la fin de la politique du XXe siècle. On est à la fin des vieilles idées ou des vieilles théories idéologiques et dogmatiques d'un côté comme de l'autre. Il y a un pragmatisme nécessaire à mettre en œuvre. Il y a un monde qui a changé. Il y a des nouveaux modèles qui s'opèrent. Et on est dans le même sujet que des entreprises qui vivent des crises de modèles et qui doivent complètement se réadapter. La France doit se réadapter. Le vrai sujet, c'est est-ce que des hommes de bonne volonté qui ont des talents diversifiés, qui ont des origines et des histoires ouvertes et diverses, peuvent se rassembler aujourd'hui pour réécrire un projet pour la France. C'est pas d'aller donner un coup de main, un coup de pouce ou aller recomposer une majorité défaillante. C'est vraiment de se dire, voilà, il y a probablement 4 ou 5 grandes réformes à faire. Il faut les prendre à la base. Est-ce que il y a des acteurs politiques ou des acteurs de la société civile qui savent et qui pourront demain se détacher des postures rupture des partis, de cette espèce de vieille politique figée dans des idéologies rétrogrades, qui pourront partir d'une feuille blanche, regarder l'état de la France, regarder objectivement les réformes, regarder la situation du monde, regarder les grandes perspectives européennes et reconstruire un projet politique.
Alors est-ce que Manuel Valls est un homme qui sait se détacher des postures? Est-ce que c'est un homme de bonne volonté?
Les semaines à venir nous le dirons. Il est effectivement dans un choc culturel en ce moment avec cette vieille idéologie socialiste, comme on est nous dans un choc culturel avec probablement des vieilles idéologies aussi qu'on porte et qu'on entraîne malgré nous dans le débat politique. Et puis on a cette espèce de situation de posture, vous voyez, les clivages qu'on entretient sont pour la plupart artificiels. Ils sont des éléments d'un fonds de commerce lié à la professionnalisation de la vie politique. Et ça c'est extrêmement, ça pollue tout le débat parce que on doit sortir de ces postures, sortir de ces idéologies et avoir un regard pragmatique, vrai, authentique, oui, ambitieux pour la France.
Pragmatisme, c'est un terme qu'emploie beaucoup Manuel Valls, justement. Aujourd'hui, à gauche, ce passéisme, cet archaïsme serait incarné par les frondeurs ou par le parti de gauche. À droite, qui incarnerait aujourd'hui cette vision un peu figée de la politique?
Chez tous ceux, par exemple, qui résument la politique à des problèmes d'ouverture au monde et d'Europe, par exemple. Vous voyez, tous ceux qui ont ce discours de recherche de bouc émissaire en disant tout ce qui nous arrive, c'est la faute de la mondialisation, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute des autres. C'est ceux qui n'acceptent pas de voir que les problèmes qu'on a, c'est d'abord de la faute de ce que les politiques ont fait depuis des dizaines d'années et de cette incapacité à ce qu'ils ont les uns et les autres à repenser un modèle. Parce que repenser un modèle, c'est oser des réformes, c'est créer des aspérités qui peuvent remettre en cause leur profession politique. Et donc tous ceux qui réduisent la vie politique à quelques slogans, tous ceux qui regardent le monde comme le bouc émissaire de notre problème sont les conservateurs de la vie politique.
Le centre est en train de se réorganiser, le second tour de l'élection à la présidence de l'UDI pour succéder à Jean-Louis Borloo aura lieu du 29 octobre au 12 novembre. Vous soutenez pour votre part Hervé Morin face à Jean-Christophe Lagarde. Quel devra être le rôle du centre en 2017?
De ne plus être cette espèce de compromis entre la droite et la gauche. C'est un positionnement qui ne veut rien dire. Le rôle du centre, c'est une vieille famille politique, qui est plus libérale, qui est plus décentralisée, qui est plus européenne, qui est très réformatrice. Son rôle, sa mission, sera de se doter d'un socle d'idées, d'une solution, d'un projet pour la France qu'elle pourra proposer aux Français d'ici 2017.
Et vous soutenez donc Hervé Morin, je l'ai dit, un homme qui soutenait pour sa part François Bayrou, avant finalement de rejoindre Nicolas Sarkozy en 2007. Est-ce que c'est quoi? C'est l'homme de la synthèse, là, ou l'homme du compromis?
En tous les cas, le contrat avec moi est extrêmement, extrêmement clair. C'est de dire notre mouvement politique n'a d'avenir que s'il ose un projet pour 2017, en toute indépendance. Tout le reste, c'est de la littérature, vous voyez. Et le passé ne m'intéresse pas de ce point de vue-là. Donc, soit on a l'audace de 2017 et de faire de ce mouvement politique un véritable mouvement de renouveau, soit autrement, on sera aspiré par les ambitions personnelles, et c'est ce que je ne veux pas.
Un petit mot du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. Quelle bataille comptez-vous mener contre les transformations de la politique familiale, les 700 millions d'euros d'économies sur la branche famille?
Si vous voulez, il faut qu'on fasse extrêmement attention, parce que dans notre croissance, une part de notre croissance est encore cette démographie dynamique dont la France bénéficie. La politique familiale est un atout, un capital formidable pour stimuler tout ça. Donc moi, je serai extrêmement vigilant et je m'opposerai à toute tentative de modulation des allocations familiales, dans la mesure où c'est un principe de solidarité universelle qui ne doit pas être remis en cause si on veut maintenir cette dynamique démographique.
Merci Jean-Christophe Fromentin.
Merci.
Bonne journée.